Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Cette vie éternelle qui ne passe point, ô Dieu, veuille nous parler encore par ta parole. Veuille nous sonder, veuille nous briser si c'est nécessaire. Veuille nous courber, Seigneur. Oh non, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Donne-nous des cœurs humbles, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de comprendre et de réaliser que nous n'avons rien par nous-mêmes. Et tout ce que nous pouvons avoir, cela vient de toi. Ô Dieu, garde-nous de nous glorifier. Et que humblement nous sachions rester au pied de la croix. Là, tu as payé notre rançon à nous qui étions bons que pour la perdition. S'il te plaît, parle-nous encore afin que nous avancions dans la connaissance de ta volonté pour nos vies. Tu es ici, Seigneur. Merci, Père. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Exode, chapitre 20, verset 17. Vous allez me dire, mais il y a déjà longtemps que nous sommes sur ce passage. Et pourtant, nous n'avons pas fini. Peut-être que c'est le dernier message, je ne sais pas, moins que Dieu me parle encore. Mais certainement que nous avons des choses à apprendre, frères et sœurs, car Dieu ne parle jamais en vain. Et nous n'avons pas fini de sonder la parole de Dieu. La pensée de Dieu est si profonde, si extraordinaire, si merveilleuse. Et nous avons tant de peine à la saisir. Il nous faut autre chose que l'intellect, que l'intelligence humaine. Il nous faut le secours du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur a encore des choses à nous dire. Nous relisons encore ce passage. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Nous avons déjà parlé largement sur la convoitise. Et comme ces choses, cette convoitise est une force de destruction. Et encore, nous y revenons. On pense généralement que quand on touche les 10 commandements, ce sont des commandements qui certainement ont une valeur. Mais une valeur, si je puis dire, négative, c'est ainsi qu'on le comprend. Quelque chose de négatif. Eh bien, moi, je vous dirais autrement. Ces commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, ne sont pas des commandements négatifs, au contraire, je dirais, ils sont positifs. Pourquoi interdire? Pourquoi défendre? Puisque l'interdiction nous excite à la violer. L'homme, depuis sa rébellion, viole les commandements de Dieu et cherche par tous les moyens à faire sa propre volonté, ce que sa chair veut, déformé qu'il est par le péché. Et la puissance du péché. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de nos jours qui veulent interdire d'interdire. Et ça, c'est la philosophie de notre monde d'aujourd'hui. Quand on arrive à une telle philosophie, on tombe dans l'anarchie. De cette façon, on ôte toute barrière. Toute barrière. Et c'est la licence sur toute la ligne, le laisser aller sur toute la ligne. Alors, on peut tout faire. Et on se sent permis de tout faire puisque l'interdiction est quelque chose qui devient interdit. Pourquoi? Parce qu'on prétend qu'en interdisant, on crée des complexes. Et c'est ainsi que des parents laissent faire tous les enfants, laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. L'enfant devient un véritable sauvage dans la maison. Il n'apprend aucune discipline. Pourquoi? Parce que on dit qu'il ne faut pas interdire à l'enfant quoi que ce soit, on va créer en lui un complexe. Laissez l'enfant s'exprimer. Mais la Bible nous dit que la folie est dans le cœur de l'enfant. et que les parents, avec sagesse, doivent discipliner, doivent raisonner, doivent interdire. Et l'interdit, là, n'est pas une chose négative, c'est une chose positive, afin que cet enfant apprenne à vivre dans la société. Notre société, de plus en plus, s'en va à la dérive à cause de ce qu'on ne veut pas interdire. L'interdiction n'est pas négative par elle-même, mais c'est une force positive, oui, je dis bien, une force positive, à plus forte raison si ce commandement vient de Dieu. Dieu désire le bien et le bien-être pour ses enfants. Il désire tout ce qu'il y a de meilleur pour ceux qu'il a créés. Et s'il interdit, c'est pour la vie et non pour la mort. Dieu nous a créés libres à sa ressemblance. Il respecte notre liberté de décision et de choix. Dieu respecte ce qu'il a mis en nous. Et il n'oblige en rien. Mais comme nous avons été pollués, aveuglés par le péché, nous faisons bien trop souvent un mauvais choix. Nous avons la liberté de choisir, bien sûr. Mais notre choix, bien trop souvent, est mauvais. Alors, Dieu doit interdire. Si nous faisions toujours le bon choix, il n'y aurait pas de raison d'interdire. Et il n'y aurait jamais eu de tel commandement, tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. Mais Dieu interdit à cause de nos mauvais choix, inspirés par les convoitises de la chair, à cause du péché et de la rébellion qui est dans notre cœur. C'est la raison des 10 commandements. Et de tous ces autres commandements que nous trouvons dans son saint livre. Ces commandements ne sont pas faits pour nous ennuyer. Ils ne sont pas faits pour être un obstacle à notre harmonie et développement, pour nous donner des complexes. Loin de là, ce sont des commandements qui libèrent. Ils sont destinés à nous protéger. Ils sont destinés à la vie et non à la mort. Mais voilà, leur violation amène la mort. Ces commandements sont positifs, mais notre entêtement à faire le mal les rend négatifs. Ils ne sont pas négatifs par eux-mêmes, ils sont négatifs à cause de notre entêtement et de notre rébellion et de notre préférence à faire notre propre volonté et ce qui est mal. Qu'allons-nous faire alors ? Nous sommes incapables d'y obéir et de plaire à Dieu. Nous sommes incapables de ne pas convoiter ce qui est mal. Il y a conflit entre les 10 commandements et conflit entre la convoitise et la volonté propre. Car la volonté de l'homme naturel est toujours contre la volonté de Dieu. Qui va l'emporter alors? Car il y a conflit. Nous avons besoin d'un sauveur, et c'est cela pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Incapables que nous sommes à faire la volonté de Dieu, incapables d'obéir et violant l'interdit. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Le commandement positif pour nous mener à la vie nous mène à la mort. Pourquoi? À cause de notre entêtement à le violer et à faire notre propre volonté. Nous avons besoin donc d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur, toi, violateur des commandements de Dieu. Et Dieu, alors, à travers Jésus-Christ, fait un miracle. Il change notre nature, si seulement nous le lui demandons. As-tu demandé à Dieu de changer ta nature? As-tu demandé à Dieu d'être une nouvelle créature? As-tu demandé à Dieu d'être libéré de ce joug de mal et de rébellion qui est en toi depuis ta naissance? As-tu désiré d'être un nouvel homme et une nouvelle femme? Il change, oui, il fait le miracle. Il change les désirs de notre cœur. Il change nos affections. C'est la raison pour laquelle il est parlé de ce changement comme étant une nouvelle naissance, c'est-à-dire une recréation. L'homme ancien disparaît, il n'a plus de place, il est crucifié, il est pendu au bois, il meurt Désormais, c'est le nouvel homme qui prend la place. Quoi qu'il soit pendu au bois, il cherche encore à réagir. Non, rappelez-lui qu'il est mort et qu'il est mort et qu'il doit rester mort. Pas de résurrection sans mort au préalable. Nous attendons la résurrection, frères et sœurs. Nous attendons un nouveau corps. Mais ce nouveau corps ne pourra se manifester, cette résurrection ne pourra être que si d'abord il y a mort et crucifixion. Et alors il nous donne sa nature, une nouvelle naissance. Oui, avec Dieu, le négatif est positif. Avec Dieu, la loi, avec toute sa rigueur, devient grâce, devient pardon et vit en Jésus-Christ. Il veut pour nous la vie et non la mort. La parole de Dieu veut notre vie. Et elle est claire, très claire. En l'occurrence, il dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. C'est-à-dire, tu ne convoiteras pas la parcelle de ton prochain. Tu ne convoiteras pas les biens immobiliers de ton prochain. Ses biens acquis par son travail et par la sueur de son front. Tu ne le convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La femme de ton prochain, c'est sa propriété privée. C'est sa propriété exclusive. C'est sa propriété inviolable. Elle t'appartient, mais toi aussi tu lui appartiens. Ce n'est pas là que je dise que vous deviez considérer votre femme comme une propriété et comme un bien. Non. Elle est à un bien plus haut niveau que votre voiture, que votre maison, que votre parcelle, votre femme. Si elle vous appartient, lui et vous, vous lui appartenez aussi. Il y a réciprocité d'appartenance et de propriété. Ma femme est ma propriété exclusive, mais moi je suis aussi sa propriété. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et ensuite, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, c'est-à-dire ses troupeaux, on pourrait dire, ou alors son bœuf, comme on les utilisait à cette époque-là, c'était des bœufs de trait qui tiraient les charrues pour labourer le sol, puisqu'on n'était pas mécanisé en cette époque-là. Qui tiraient les chars chargés de marchandises ou de biens ou que sais-je pour vendre au marché. Aujourd'hui, on peut transposer cela. Tu ne convoiteras pas le camion de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le tracteur de ton prochain. Tu ne convoiteras pas les équipements agricoles de ton prochain. Tu ne convoiteras pas les équipements de travail qui rapportent un bénéfice quel qu'il soit de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le garage de ton prochain. Tu ne convoiteras pas ces choses-là. Ou le commerce, ou la boutique, ou que sais-je. Et il est dit, tu ne convoiteras pas son âne. À cette époque, l'âne, c'était le moyen de locomotion, si je puis dire. En tout cas, on allait bien plus lentement qu'aujourd'hui. Tu ne convoiteras pas sa voiture, son transport, cet outil de travail qu'il a pour se déplacer et qui lui facilite et qui lui donne beaucoup plus de temps pour se consacrer à sa tâche. Tu ne convoiteras rien qui soit à ton prochain. Dieu n'est pas opposé à ce que nous ayons des propriétés, loin de là. Et que nous en jouissions. Il n'est pas contre que nous nous marions et que nous ayons notre femme. Il est bien dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il n'est pas dit les femmes de ton prochain, mais la femme de ton prochain. Oh, il y a tant de gens qui veulent excuser leur péché par le péché qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament et les déviations. Et même si Dieu a toléré une certaine polygamie dans l'Ancien Testament, il ne l'a que tolérée. Et aujourd'hui, nous sommes sous une meilleure alliance, est-il dit. Christ a une seule épouse. Christ a une seule église. Dieu n'est pas contre le mariage. Et que nous ayons notre femme dans notre maison. Et que nous passions notre vie avec notre femme. Oui, la même, toute la vie. Il n'y a point de lassitude en cela. Il y a meilleur chaque jour lorsqu'on marche avec Dieu. Il n'est pas compte que nous ayons des instruments pour le travail. Il n'est pas compte que nous roulions dans une voiture air conditionnée, pourquoi pas. Il fait si chaud, j'étais content à Mbujimaï qu'on ait mis à ma disposition une voiture air conditionnée avec un chauffeur, s'il vous plaît, pour se déplacer, pour avoir un meilleur rendement, pour se fatiguer moins et pouvoir donner plus là où c'est nécessaire, où c'est la priorité. Nous avons des privilèges en notre génération avec tous les instruments de travail que nous pouvons avoir pour nous aider à cause de la technique qu'il y a aujourd'hui. Mais est-ce que Dieu est contre cela? Mais non, je souhaite que chacun de vous, vous ayez votre voiture, mon frère. Pourquoi pas? Et surtout ceux qui sont dans le ministère, que Dieu leur accorde d'avoir un jour un véhicule pour faire leurs travaux, le travaux de gagneur d'âme, pour un rendement meilleur, pour autant que ce ne soit pas le prix, le fruit du vol ou de la rapine. Il y en a qui ont des voitures par rapine et par vol, et par détournement. Ah non! Pas de bénédiction là-dessus. Mais il dit que toutes ces choses que peut avoir ton prochain, tu ne dois pas les convoiter. Voilà! C'est-à-dire, chercher à avoir ce qu'il a pour te l'approprier. Cherche à l'avoir par tes propres moyens, toi. Travaille pour acquérir ces choses toi-même, par ton travail. Bannis la jalousie de ton cœur. Ne convoite pas le bien d'un autre. La loi interdit ce que les appétits naturels désirent. Nous avons tous des appétits naturels, les appétits. Mais tous nos appétits ne sont pas bons. C'est pour ça qu'il est dit, convoite pas la femme de ton prochain. Convoite pas le bien de ton prochain. Ça, ce sont des appétits naturels. La loi interdit que ces appétits naturels se manifestent. Cela nous force à nous examiner avec sérieux. Je désire. Pourquoi est-ce que je désire? Si nous obéissons à nos impulsions naturelles, nous tombons. Si nous nous laissons diriger par ce que nous voulons dans notre logique humaine charnelle, bien souvent nous tombons. Nous voyons des exemples dans la parole de Dieu. La convoitise d'Akab dans 1 Roi 21. Le roi Akab convoita la vigne de Naboth. C'était une si belle vigne. Une si bonne terre. Les fruits étaient merveilleux. Et là au fond, il y avait une belle petite maison. Et chaque fois que le roi Akab passait là, il convoitait cette terre et cette vigne. Il en devenait malade. Il appela Naboth. Il lui a offert un grand prix pour son terrain, pour sa vigne. Naboth a dit non. Il a osé dire non au roi. Pourquoi? Car il y a une autorité supérieure. Et cette autorité supérieure, qui est le Dieu d'Israël, avait dit, tu ne vendras pas ton héritage. Tu es autorisé à le vendre que lorsque tu es bourré de dettes. Mais à l'année du jubilé, cet héritage revient à ta famille. Voilà le commandement. Mais le roi Akab la convoite. La convoite quand Jézabel, sa femme, voit qu'il ne peut obtenir ce qu'il a parce qu'il se conduit comme un enfant. Il tape du pied, il se tourne le visage contre le mur dans son lit. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais cette vigne, il faut que j'aie cette vigne. Ah bon? N'es-tu pas le roi d'Israël? Ne t'occupe pas de cela, tu auras ta vigne. Jézabel monte toute une histoire. On fait accuser Naboth de blasphème contre Dieu et contre le roi par de faux témoins. Chose grandement condamnable en ce temps-là par la loi de Moïse. Un tel homme devait être ôté de son peuple. Il est jugé, condamné, et il est lapidé. Bientôt son corps n'est qu'une masse sanglante sur le sol. Il meurt comme un coupable, lui innocent, tué par la convoitise d'un autre. Combien de fois n'avons-nous pas fait cela dans notre pays, frères et sœurs? Des gens ont été en prison à cause de notre convoitise. Des gens ont saisi nos propriétés et nos biens, quels qu'ils soient, avec des mensonges. Et celui qui n'avait pas la possibilité de se défendre a perdu ses droits. La colère de Dieu est contre de telles machinations. Dieu a vu et Dieu a donné la rétribution juste à Acab, car ton péché te trouvera. Acab mourut percé par une flèche tirée au hasard sur le champ de bataille alors qu'il s'était déguisé comme un simple soldat pour ne pas être aperçu par l'ennemi. L'ennemi n'a pas besoin de voir qui est le roi, c'est Dieu qui dirige les flèches. Cette flèche l'a percé. Il s'est vidé de son sang. Et quand on a lavé son char rempli de sang à la source, les chiens sont venus lécher son sang. Quant à Jézabel, sa femme, elle fut précipitée en bas d'une fenêtre. Son corps, sans vie, restait là dans la rue. Les chiens sont venus, elles l'ont dévoré. Il ne restait que la tête et les mains. Ton péché te retrouvera. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux saisir le bien de l'autre par convoitise. Tu peux, en tordant les lois, t'octroyer un droit duquel tu n'as pas droit. Voler ce qui appartient aux autres en t'appuyant sur des articles de loi et des faux documents. Tu peux le faire, mais sache qu'un jour tu le payeras, car il y a un Dieu de justice dans le ciel. Ne l'oublie pas. Il voit l'innocent et il voit le coupable. Dieu ne punit pas l'innocent, mais il punit le coupable. Si la justice n'est pas ici-bas, sur la terre, croyez-moi, il y a un Dieu de justice qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ce que nous dit la Bible. Et si vous avez agi de la sorte, qui que vous soyez dans ce lieu, je vous dis qu'une chose, il n'y a que la repentance qui vous reste, car le jour de la rétribution arrive. Passons plus loin. Nous voyons la convoitise du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme auquel les promesses avaient été données, l'homme qui a chanté avec sa harpe dans le temple les louanges de l'Éternel et qui a écrit des psaumes merveilleux inspirés par le Saint-Esprit. Mais homme de chair et faillible. Les troupes de David se battaient contre l'ennemi loin de Jérusalem. Au lieu d'accompagner ses troupes et de les encourager dans leur bataille contre leurs ennemis, David reste à Jérusalem dans l'oisiveté. Il se promène un soir sur le toit de son palais. Vous trouvez cette histoire dans le 2 Samuel chapitre 11. Alors qu'il se promène sur le toit de son palais, au clair de lune, il voit en contrebas une autre maison au toit plat comme on construisait alors. Il voit sur le toit d'une maison une femme qui se baignait et qui était très belle, est-il dit. Dès qu'il la vit, il la convoite. Il se renseigne sur elle. Et on lui rapporte qu'elle est la femme d'un de ses officiers qui se bat loin de là, Uri le Hessien, et sa femme est Bathsheba. N'est-il pas roi, David? N'a-t-il pas tous les droits, David? Non, tu peux être roi, mais tu n'as pas tous les droits. Et c'est ça dont nous devons nous souvenir. Nous te respectons, David, à cause de ton autorité. Nous te respectons, David, à cause de toutes les bonnes choses que tu fais. Mais n'oublie pas que tu es un homme qui est sous l'autorité aussi du grand Dieu de l'univers. Et il n'a jamais dit que ces lois ne te concernaient pas, David. Tu es né la même chose que le mendiant dans la rue et tu mourras la même chose que ce mendiant le jour de ton départ. Il apprend que cette femme est celle de son officier et qu'il est loin au combat. Il envoie la chercher. Quelque temps plus tard, elle fait dire à David qu'elle attend un enfant de lui. Il doit cacher cela. En Israël, c'est un scandale. Ne connaît-il pas la loi? Bien sûr qu'il la connaît. Alors, son mari est toujours en campagne avec l'armée. Là, David, pour couvrir son péché, tombe dans des manipulations honteuses. Nous n'allons pas parler en détail de tout cela. Il tombe dans des manipulations honteuses jusqu'à provoquer la mort de Ouri le Hittite, afin qu'il puisse prendre sa femme. Ouri ne savait rien. Même alors qu'il se combattait contre l'ennemi dans cette ville et que Joab, complice des machinations de David, l'envoie avec quelques hommes à l'endroit le plus mauvais de la bataille où il savait qu'il serait percé de flèches. Il est tué là par les flèches de l'ennemi. Et Joab envoie vite la nouvelle. Ouri le Hittite est mort. Ouri n'a rien su de toute la machination. Il était fidèle à son roi et quand son roi l'avait fait venir à Jérusalem, il voulait qu'il aille rejoindre sa femme pour justifier que cette femme était enceinte et faire croire qu'elle était de son mari. Ouri a refusé, il a dormi à la porte du roi, il a dit « Je ne peux aller chez moi et me reposer alors que mes frères sont dans la bataille en pleine campagne. » David a essayé de l'enivrer. Mais rien n'a réussi. C'est pour cela qu'il a dit, fais-le mettre devant pour qu'il prenne les flèches de l'ennemi et qu'il meure. Oh mon frère, ma sœur, c'est sordide. Ne faisons-nous pas, nous, la même chose dans nos machinations politiques? Est-ce que nous ne détruisons pas celui-ci et celui-là en le faisant périr par une main étrangère pour se débarrasser de lui et de sa voix et de ses opinions et de ses influences et de son pouvoir par cupidité, par envie, parce que nous convoitons. Et cet homme nous fait trop d'ombre. Il sait, David, ne l'a-t-il pas chanté? Il sait, David, qu'il est dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais l'impulsion de la chair est si forte. Dans cette même loi qu'il connaît bien et qu'il chante, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Dans cette même loi, il est écrit, tu ne tueras point. Mais il viole cette loi. Par choix, mauvais choix, choix négatif. Cette loi est positive pour ceux qui veulent y obéir. Elle devient négative pour les violateurs. Il ne voit plus rien. Il n'entend plus rien. Il est comme un animal qu'on traîne à l'abattoir, aveugle et stupide. Voilà l'homme qui pêche et qui viole les commandements de Dieu. Il devient aveugle et stupide. Il ne voit pas qu'il va au-devant de la destruction. Tu violes la loi, tu violes les commandements, tu violes les principes de morale, tu violes tout. Et tu penses réussir. Pendant un temps, il semble que tu réussis, mais tu le payeras, car il y a un Dieu de justice dans le monde. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Et s'il attend, c'est par grâce, et rien que par grâce. S'il attend encore, ce n'est que par grâce encore, toi qui as violé et qui viens ici. Profite de sa grâce, je t'en prie. Profites-en et repends-toi. Il est comme un animal qu'on traîne à l'abattoir, aveugle et stupide. Sache que les commandements sont aussi pour toi. Ce n'est pas seulement pour les autres. Toi qui es en autorité, toi qui décides, toi qui commandes. Crains Dieu, car les commandements sont aussi pour toi. Tu es né la même chose que celui qui te sert, et tu mourras la même chose, quelle que soit l'accumulation de tes biens. Car ces biens, tu ne les emporteras pas. Nu tu es venu, nu tu partiras. Il tombe dans la duplicité. Il tombe dans la machination la plus abjecte. Il tombe dans le mensonge et le crime par personne interposée. Ce n'est pas lui qui a tué, non. Mais il a donné et fait toutes les circonstances pour que l'autre soit tué. Dieu lui envoie alors le prophète Nathan, qui lui parle avec sévérité. Certaines fois, il faut le courage aux hommes de Dieu pour parler à ces grands de ce monde et les avertir. Que Dieu suscite des hommes assez courageux pour prêcher et crier la vérité, quitte même serait-ce à perdre la vie. N'avait-il pas compris avant? Non. La convoitise de la chair l'avait rendu complètement stupide. Et il ne marchait pas près de Dieu. Il n'avait que la hantise de ce qu'il avait vu là sur ce mur, sur ce toit de cette maison au clair de lune. C'était une hantise qui polluait son âme et l'empêchait de comprendre et de se rappeler les commandements de Dieu. Si seulement il était allé au temple pour prier, chercher la face de Dieu, il aurait compris, elle aurait fui la tentation. À l'ouïe de l'exhortation, à l'ouïe des paroles de Nathan dites avec grande sévérité, il dit « j'ai péché ». Il se repent et il est dit « Dieu ne le fit point mourir ». Autrement dit, Dieu allait le faire mourir s'il n'y avait pas de repentance. Mais les conséquences ont été tragiques pour lui, pour sa famille et ses descendants. Regardez autour de nous ces enfants innocents, victimes de la convoitise des parents. Regardez-les. Ils sont dans la rue, partout. Ils sont abandonnés ici et là, jetés à la rue, privés. Il n'y a pas que des enfants dont les parents sont morts du sida, non. Mais il y a ces enfants qui ne connaissent pas leur père ou qui ne connaissent pas leur mère. Privé d'un papa, privé d'une maman, privé d'amour, révolté, déséquilibré physiquement et mentalement par la convoitise des parents, la convoitise du père qui ne sait même pas qu'il a un enfant quelque part qui a été abandonné parce que personne ne veut de lui. Les circonstances sont trop difficiles. On ne peut pas avoir plus d'enfants dans la famille. On ne peut pas avoir plus de bouches à nourrir. Que dire de ces gens qui font enfant sur enfant et qui ne les élèvent même pas et qui les laissent à la famille qui est déjà surchargée? Tu fais un enfant, tu en es responsable et tu n'as pas le droit d'abandonner cet enfant à des parents éloignés que serait-ce à tes oncles ou tes tantes. Non, là tu pèches. Tu fais un enfant, tu en restes responsable pour le nourrir et pour l'habiller. C'est trop facile ici au Congo de faire des enfants hors du mariage à gauche et à droite et après de le confier à la grande sœur ou au grand frère qui sont déjà surchargés par leur propre famille. Espèce d'égoïste que tu es. Je suis fatigué d'entendre ces histoires de ces jeunes gens qui ont des enfants quand ils sont à l'université, qui ont des enfants quand, ici et là, quand ils voyagent. Et puis ces enfants sont après confiés au grand frère ou à la grande sœur. Je suis fatigué d'entendre ces jeunes filles qui se marient. Elles n'ont pas d'enfants. Elles se marient avec un homme qui a 3 enfants déjà. Et il veut imposer ses enfants à cette nouvelle femme qu'il a. Et certaines fois, elle ne le veut pas. Et je le comprends. C'est pour cela que je demande toujours s'il y a un enfant quelque part. Et s'il y a un enfant, je demande à la femme, est-ce que vous acceptez cet enfant, oui ou non? Des fois, elles disent non. Et je dis à l'homme, tu ne peux pas l'obliger. C'est toi qui es responsable. Des fois, elle dit oui. Alors, je dis, c'est bien, faites tout cela dans la paix. Sache que tu es responsable au homme. Arrête de courir. Regarde tous ces enfants qui sont laissés pour compte. Ce sont des enfants qui sont le fruit de ta convoitise et rien d'autre. Qu'attends-tu pour te repentir? Ne crois-tu pas que Dieu va te demander des comptes sur ces vies qui n'ont pas demandé de venir dans ce monde? Tu es responsable. Qu'attends-tu de te repentir? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Encore un autre exemple dans Marc 16, 17. Hérode, lui aussi, était roi. Il a convoité et pris la femme de son frère. C'est une chose qu'on voit ici au Congo aussi, pas vrai? On prend la femme de son frère. Elle était sûrement consentante, cette femme. Mais Jean-Baptiste, celui duquel Jésus a dit, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. » Jean-Baptiste, le prédicateur de la vérité. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Avant Jésus. Jean-Baptiste. Il dit à Hérode, le roi puissant et méchant, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Ne pensez-vous pas qu'il soit nécessaire d'avoir un certain courage pour avoir voir le premier, la première autorité du pays et de lui dire « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère ?» Frères et sœurs, Dieu nous appelle à nous, prédicateurs, à nous, pasteurs, d'être la voix de la conscience dans la nation. Nous ne devons pas prêcher pour faire plaisir aux oreilles de celui-ci et celui-là, mais nous devons être les défenseurs de la vérité, de la justice, de la morale, de la vraie spiritualité, et non pas de théâtre et de machination quelconque pour attirer les regards des hommes sur soi. Non, que les hommes nous oublient, que les hommes m'oublient, mais qu'à travers le message que j'annonce, n'oubliez jamais Jésus, devant lequel vous allez vous tenir, moi aussi. Je ne suis pas hors de ces obligations, vous m'entendez? Je ne me considère pas hors et privilégié de ces exigences. Avec la parole que je vous prêche, je serai jugé. Jean-Baptiste, merci pour ceux qui ont le courage de prêcher la vérité et qui refusent de rentrer dans les machinations politiques pour faire plaisir à tout le monde. Non ! La voie de la morale, la voie de la conscience, à cause de sa prédication à Hérode, il est jeté en prison. Qui es-tu, Jean, pour oser prêcher de la sorte à un haut roi, à l'autorité suprême du pays? Jean est un homme de Dieu, prêt à prêcher la vérité en toute occasion, en toute circonstance, à toute personne, quelle qu'elle soit. Un pasteur doit être la conscience de la nation. Que Dieu nous aide à être la conscience de notre propre pays. À réveiller la conscience et certains seront fâchés et certains seront heureux. Non, ô roi, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Tu dois être un exemple pour ton peuple. Tu dois être un modèle pour ceux qui te regardent et te suivent. Tu ne peux pas dire la vie privée c'est une affaire, la vie publique est une autre affaire. C'est pas vrai. Si tu es sur le trône, sache que ta vie publique devient une vie privée. Pardon. Sache que ta vie privée est une vie publique. C'est comme ça que je voulais le dire. Tu ne peux pas cacher ta vie privée. Tout le monde te voit. Tout le monde sait qui rentre dans ta maison. Tout le monde sait avec qui tu couches chez toi à la maison. Tout le monde sait ces choses-là. Il n'y a pas de secret. Quelle influence peux-tu avoir sur la génération montante, si toi tu vis une vie de débauche? Quelle influence peux-tu avoir vis-à-vis des jeunes qui se lèvent, si toi on te voit ivre dans le bar? Si toi on te voit et on t'entend dire des choses sales et infâmes? Non, tu dois avoir une dignité et tu dois avoir une morale. À ce moment-là, tu es fort et tu peux commander, car tout le monde sait que ce que tu dis, tu le fais. Voilà un homme d'autorité. Jean a eu ce courage. Tu dois être un exemple aux hommes. Mais voilà, Jean est jeté en prison à cause de ce qu'il a prêché. Et ensuite, Jean est décapité dans sa prison. Il est décapité, on lui coupe la tête. Par envie, par vengeance de cette femme infidèle et corrompue qui réclame sa tête à travers sa fille auprès d'Hérode, le jour de son anniversaire, quand Hérode est pris par les vapeurs de l'alcool. Et Jean mourut pour son courage dans la vérité. Mais il recevra sa récompense des mains de celui qui l'a envoyé pour prêcher la vérité. La vérité, bien des fois, coûte quelque chose lorsqu'il faut la dire. On n'est peut-être pas populaire, mais croyez-moi, celui qui est là-haut, il sourit et il se réjouit. L'histoire ne s'arrête pas là, à la mort de Jean. La fin d'Hérode fut terrible. Il mourut, comme il nous est dit dans Actes 12, 23, rongé par les vers. Un ange le frappa alors qu'il était en train de haranguer une foule dans ses habits royaux. Haranguer une foule et que la foule frappait des mains. Et il disait, c'est la voix d'un Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme. Il n'a pas glorifié Dieu. Il a dit qu'un ange le frappa, il tomba mort et il était plein de vers. Ah, la vengeance. La vengeance de Dieu est pire que celle des hommes. Craignez Dieu, je vous en supplie. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mieux vaut se repentir et crier à Dieu pour son pardon et sa grâce, comme fit David, que de s'entêter dans le mal, comme fit Hérode. Mais qu'en est-il pour nous, notre propre convoitise? Nous avons tous à lutter contre cette tendance naturelle de l'homme, du cœur de l'homme. Oui. La loi positive réveille nos sens, mais le négatif de la nature humaine nous pousse à la violer. Quand la loi défend ce que nos appétits désirent, cela doit nous pousser à un sérieux examen. La loi défend et nos appétits nous poussent à faire ce que la loi défend. Quand nous constatons cela, faisons un examen honnête et faisons le bon choix. Dieu ne va pas nous dire, envoyez un ange, ne fais pas ça. Non, sa parole est suffisante. Nous avons le libre choix et Dieu le respecte. Tu choisis de faire le mal, vas-y. Tu choisis de faire le bien, il te bénira. Mais il y a les conséquences des deux côtés. Conséquences positives, conséquences négatives. Choisis. Dans notre nature, nous désirons toujours quelque chose. Toujours quelque chose. C'est une force en nous. Ce n'est pas une force forcément négative. C'est parce que nous désirons quelque chose que nous arrivons à accomplir quelque chose. Je désire une maison. Je vais mettre l'argent de côté et je vais la construire. C'est un désir positif. Jeune homme, tu désires te marier. Jeune fille, tu désires te marier. C'est positif. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait une attirance l'un vis-à-vis de l'autre. Tout ça, c'est bien. Mais respecte les commandements de Dieu et la loi de Dieu. Attends le jour du mariage pour vivre avec elle, pour vivre avec lui. Jusqu'à ce que tout soit au point et que les contrats soient signés. Ah! Ne cède pas à la convoitise. Ton désir de marier est positif, mais ton désir d'être avec elle avant le mariage est négatif. Et c'est ça que tu dois comprendre. Et beaucoup ont violé la loi de Dieu de tant de façons, et c'est la raison pour laquelle leur mariage est en déséquilibre. Déséquilibre. Pourquoi? Il y a toujours des conséquences à la violation des commandements de Dieu. Il y a une dynamique dans la loi, positive ou négative. Et cette force dans le monde est manipulée. Le monde sait très bien que les hommes ont toutes sortes de désirs. Et le monde manipule ces désirs à travers la publicité, bien souvent mensongère ou exagérée, à travers les médias, pour créer une convoitise, un désir pour des choses que nous ignorions, que nous ne connaissions pas, et créer des besoins en nous. Et on va penser qu'on ne peut pas se passer de cela. alors qu'avant on ne l'avait pas et on vivait très bien. Dans chaque individu, il y a une dynamique. C'est à vous de faire que cette dynamique soit positive et non négative. Le monde veut te persuader, tu dois acheter, vraiment tu dois acheter, tu en as besoin. Et elle va te persuader par les médias, par la publicité, que tu ne peux pas faire sans ça. Sois pas un esclave de la publicité et des médias. Sois un indépendant. Cette dynamique des désirs dépend de l'utilisation que nous en faisons. Les désirs de toutes sortes ne peuvent pas être éradiqués du cœur de l'homme. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Les hommes convoiteront toujours quelque chose, soit bon, soit mauvais. Quand Jésus règne dans le cœur, le désir pour ce qui est mal est dominé par le bien. Et le désir pour le bien devient une force positive de vie. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves de nous-mêmes. Nous ne sommes plus esclaves de nos instincts. Nous ne sommes plus esclaves de nos passions et de nos désirs, mais nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Ce qui est alors une dynamique de liberté, de marche en avant vers le bien, vers la gloire, vers la lumière, vers une recherche et une poursuite pour ce qui contribue à la gloire de Dieu et au salut du perdu. Quelle est la dynamique qui est en vous? Vos désirs. Vous en êtes-vous maître? Désirez-vous le bien pour le bien ou le mal? Espérez en tirer du bien? Non, jamais le bien sortira du mal. Vous m'entendez? Jamais. Ne croyez pas aux illusions de Satan. Nous ne devons pas être emprisonnés par un esprit de convoitise qui crée un désir intense pour ce qui est défendu ou pour ce qui appartient à un autre. Car là, il n'y a pas de paix. Là, il n'y a pas de repos. Tu ne convoiteras pas. L'apôtre disait, j'ai appris à être content dans l'état où je suis. Le contentement. Nous devons résister à ce désir continuel de vouloir posséder toujours quelque chose d'autre. La possession est une obsession aujourd'hui dans notre culture. Le désir de posséder, à noyer tant d'hommes et de femmes dans des dettes, et ils deviennent esclaves. C'est pas vrai? On désire avoir ceci. J'aimerais avoir cette télévision. J'aimerais avoir ce poste de radio sophistiqué. J'aimerais avoir cette vidéo. J'aimerais avoir ces vêtements. J'aimerais avoir cette maison. On fait des dettes. Oh, je paierai plus tard. Dans d'autres pays, on emploie les cartes de crédit. On fait des dettes avec les cartes de crédit. Et pour finir, les gens sont complètement noyés. Au lieu d'être libérés, ils sont devenus esclaves, dominés par les désirs. Ils ne savent pas attendre. Ils ne savent pas mettre de côté. Ils ne savent pas gérer leur affaire. Ils ne savent pas gérer leur argent personnel. Et ils dépensent ce qu'ils n'ont pas. Et ils deviennent esclaves. Voilà ce que Satan veut. Attention, mes frères. Tu ne convoiteras pas même cette télévision que tu n'as pas et que tu voudrais. Si tu la convoites, tu vas faire la dette et tu ne pourras pas payer. J'en ai assez d'entendre ces histoires de gens qui ont des dettes. Des gens, on m'a promis que, alors j'ai dépensé. Mais non, tu ne fais pas cela, tu ne dépenses pas ce que tu n'as pas, peu importe les promesses. C'est ainsi que vit un enfant de Dieu. Devenez sages, je vous en supplie, que vous soyez connus comme étant les gens les plus sages de Kinshasa. Qui peut vous rendre sage si ce n'est la parole? Baissons la tête. Tu nous as encore enseigné ce matin, mon Dieu, et tellement souvent, Seigneur, nous écoutons nos désirs humains et notre convoitise plutôt que d'écouter ta parole. Oh Dieu, pardonne. Pardonne, Seigneur, ces désirs incontrôlés qui nous font pécher de tant de façons. Pardonne, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Nous te demandons dans ta miséricorde de nous aider. Combien, Seigneur, aujourd'hui dans notre pays, ceux qui possédaient ont tout perdu. Ils ont perdu les membres de leur famille dans ces inondations. Ils ont perdu leurs équipements. Cet homme qui avait perdu ses deux ordinateurs et sa télévision, et il ne possède plus rien. Et beaucoup d'autres, tout ce qu'ils avaient, leurs vêtements. Seigneur, mon Dieu, peut-être qu'ils se sont confiés trop dans ces choses-là. Leur maison a été construite peut-être sur du sable sans fondement solide. Et Seigneur, les eaux les ont emportées et des familles entières sont parties. Tout cela, Seigneur, nous enseigne. Nous te demandons de venir au secours de ces hommes et de ces femmes qui pleurent et qui sont dans la souffrance. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à apprendre par les événements qui nous entourent. À apprendre à devenir des hommes sages. Oh Dieu, je t'en supplie, enseigne-nous, Seigneur, et que nos désirs soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Merci, Père.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.